Ecclésiaste au chapitre 12. Le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 12, si vous n'avez pas de Bible, écoutez bien. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie. Pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras « Je n'y prends point de plaisir », avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie, temps où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par la fenêtre sont obscurcis, où les deux battants de la porte se ferment sur la rue quand s'abaisse le bruit de la mêle, où l'on se lève au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent toutes les filles du champ, où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient pesante et où la capre n'a plus d'effet. Car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle et les pleureurs parcourent les rues avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source et que la roue se casse sur la citerne avant que la poussière retourne à la poussière comme elle y était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Amen. Un texte poétique où il y a toute une description de la vieillesse. Mais au départ, il y a une interpellation sur le jeune homme. Jeune homme, réjouis-toi, jeune homme. De quel jeune homme il s'agit? Bien sûr, de n'importe quel jeune homme, mais il semble que ce soit un jeune homme pour qui tout va bien. Il a la possibilité de se réjouir, la possibilité de faire ce qu'il veut, il n'y a pas de souci, on sent qu'il va bien et qu'il profite de la vie, comme on dit. C'est le genre de jeune pour qui tout va bien. Il m'est arrivé à plusieurs fois, et certainement à d'autres aussi, de parler de Jésus, et certaines personnes nous arrêtent ou nous disent « Arrête, pour moi tout va bien, je n'ai pas besoin de ton Dieu. » On ne nous l'a pas dit comme ça, mais on nous l'a fait comprendre autrement. Et je voudrais m'adresser peut-être à vous, pour qui tout va bien, si vous rentrez dans cette catégorie-là. Est-ce qu'elle existe, cette catégorie? Dans un sens, elle n'existe pas parce que l'homme est un éternel insatisfait. Et quand bien il aurait tout, il ne sera pas satisfait. Mais en même temps, cette catégorie, elle existe, elle semble exister. Hein, des fois, on regarde certaines personnes et on est un petit peu comme Asaph qui dira « Rien ne leur manque. Ils ont tout ce qu'il leur faut. » Des fois, la vieille génération ne comprend pas la plus jeune. Parce qu'ils ont connu la guerre et des temps difficiles, ils voient que les plus jeunes ont tout et pourtant ils sont blasés. Et... Vous voyez, un décalage. Mais je voudrais m'adresser à ceux qui, finalement, tout va bien. Si tout va bien pour vous maintenant, si vous êtes dans le bien-être, je voudrais quand même vous interpeller. Et bien évidemment, pour qui peut-être vous c'est difficile, je voudrais aussi vous interpeller. Si vous êtes dans le bien-être aujourd'hui, je voudrais vous dire ceci. Votre bien-être, il est quand même permis par Dieu. Quand bien même vous n'auriez pas la foi en Dieu, c'est quand même Dieu qui en est à l'origine. Que vous le vouliez ou pas, que vous l'admettiez ou pas, c'est quand même Dieu. On vit dans un pays relativement privilégié. Des gens prennent des risques pour venir dans ce pays. Et même si après ils découvrent que ce n'est pas l'Eldorado, certains prennent des risques énormes. Et des fois je me dis, j'aurais pu être né au Sri Lanka, ou je ne sais pas, dans certains pays, où je vais citer ce pays, je ne sais pas, mais des pays où c'est vraiment la galère. Et je suis né dans ce pays et on profite quand même. Et des fois on ne mesure pas le privilège qui est notre. Tout ce que tu possèdes, ce que tu es, même si tu as travaillé dur dans un certain domaine, c'est quand même parce que quelqu'un l'a voulu, quelqu'un qui est dans l'ombre et qui l'a permis. Et il faut bien comprendre que ta santé physique, ton bien-être, ton travail, ton repos, tout ce que tu peux avoir, c'est parce que Dieu l'a voulu et Dieu l'a permis. Il arrive parfois que des personnes lèvent le poing contre Dieu et tiennent Dieu responsable de leur souffrance, du drame qui les a atteints. Et quand elles parlent, quand elles réagissent comme ça, souvent je les interpelle et je leur demande, quand vous aviez tout, quand vous aviez la santé, quand vous étiez dans le bien-être, quand vous aviez le travail, quand tout allait bien dans votre famille, est-ce que vous rendez grâce à Dieu? Est-ce que vous teniez Dieu responsable de votre bonheur? Parce qu'on sait tenir Dieu responsable de son malheur, mais on a beaucoup de mal à reconnaître quand tout va bien et c'est, il a la mauvaise part, si je peux parler. Mais la Bible dit ici, nous l'avons lu, souviens-toi de ton Créateur. Souviens-toi qu'il y a quelqu'un qui est là et que même si tu ne connais peut-être pas la grâce comme l'Évangile la présente, Dieu accorde sa pluie aux bons comme aux méchants. Il nous dit, il y a un texte qui dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Pourquoi fais-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Un texte qui nous rappelle qu'il y a beaucoup de choses que nous avons. Ben voilà, on les a et d'autres, des fois, ne les ont pas. Et je crois que c'est bien de se le rappeler. Notre bien-être, si tout va bien aujourd'hui, c'est parce que Dieu l'a permis. Mais je voudrais aller plus loin et vous dire ceci. Votre bien-être aujourd'hui, sans Dieu, il est fragile. Si tout va bien aujourd'hui, s'il n'y a pas de souci majeur, tant mieux, appréciez-le. Et je ne veux surtout pas être un prophète de mauvais augure, mais on sait que d'une manière générale, la vie, elle est difficile. Et on parle avec beaucoup de gens, on côtoie beaucoup de gens, et j'en vois plus pour qui la vie est difficile que pour qui tout roule. Et l'Ecclésiaste ici, il décrit la vieillesse d'une manière poétique. Et il dit finalement que la jeunesse, c'est finalement le bonheur ou le bien-être. C'est quelque chose, c'est un peu comme l'aurore. L'aurore, ça commence et puis ça disparaît vite. Et l'autre texte qui dit que la jeunesse, c'est comme la rosée du matin. Ça ne dure pas longtemps. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui, on peut les avoir. Un jour, elles peuvent nous échapper. C'est vrai pour la beauté. C'est vrai pour la santé, c'est vrai pour certaines facultés, certaines possibilités. On n'échappe pas à cela. Et puis, vous savez, un bonheur sans Dieu, ça peut très vite s'enrayer. La Bible nous parle d'un roi, Nebuchadnezzar. Il va même écrire et donner son témoignage. Et il écrit, « Je vivais tranquille, dans ma maison et heureux, dans mon palais. » Et puis un jour, patatrac, en quelques instants, une maladie, une folie l'atteint. Et il est mis de côté, il perd tout. Et curieusement, il sera quand même rétabli 7 ans après, ce qui m'étonne toujours. Mais en quelques instants, la machine s'enraye. La machine à bonheur, elle peut très vite s'enrayer, hein, si Dieu n'y est pas. Et puis, vous savez, tout s'enchaîne en plus. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Et puis un jour, je tombe malade. Je perds donc mon travail. Il y a les soucis d'argent qui arrivent. Et puis ça déclenche des difficultés dans le couple et dans la famille. Et puis je suis sujet après à une forme de dépression, d'angoisse ou quoi. Et puis le vide, je le remplis par des comportements addictifs. C'est comme ça, mais c'est comme ça qu'on peut très vite. Et des gens qui connaissaient un certain bonheur peuvent vite basculer. Le bonheur sans Dieu, c'est quelque chose de fragile. Je ne le souhaite pas. Mais ce que je veux dire, c'est que quand même tout irait bien, mettez Jésus dans votre vie. Mettez-le dans votre bien-être et ça fera quelque chose de durable et de solide. Je voudrais dire aussi que votre bien-être sans Dieu, eh bien, il est incomplet. L'Ecclésiaste est un livre qui respire le pessimisme. Avec cette déclaration qu'on trouve au début et à la fin, tout est vanité, tout sert à rien, tout est vain. Et l'Ecclésiaste, c'est bien sûr Salomon qui avait tout. Le confort, les richesses, il avait tout pour lui, pourtant, on ressent qu'il lui manque quelque chose. L'aisance matérielle, la santé, la connaissance intellectuelle, la santé mentale répondent à des besoins, mais ne satisfont pas tous les besoins intérieurs. La Bible nous fait comprendre qu'il y a des besoins dans le cœur de l'homme, des besoins finalement que Dieu seul peut satisfaire. Il y a, et c'est le livre de l'Ecclésiaste qui en parle, il y a un besoin par rapport à l'éternité. La Bible nous dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Et ça a besoin d'une réponse. Jésus peut apporter une vraie réponse. Il est celui qui donne l'assurance de la vie éternelle. Il y a dans la Bible une histoire qui s'est passée du temps de Jésus. Un jeune homme avait tout pour lui. Il était riche. Il avait une position sociale élevée. Et il avait le confort, la vie que tout le monde enviait. Pourtant, il lui manquait quelque chose. Et il n'était pas satisfait. Et il va venir auprès de Jésus en suppliant, « Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle ?» Et il lui manquait cela. Il y a aussi un besoin au niveau de la conscience. Et vous pouvez faire toutes les thérapies, ça ne suffira pas. La Bible nous dit qu'il n'y a qu'une seule chose qui peut laver notre conscience. C'est le sang de Jésus-Christ qui purifie notre conscience des œuvres mortes. La Bible nous montre aussi que dans le cœur de l'homme, il y a un besoin de donner du sens à la vie. Alors je ne sais quel sens vous donnez à votre existence. Mais je vois des fois des gens qui s'engagent dans toutes sortes de combats. Certains sont nobles, certains font sourire. Mais je sais une chose, c'est quand Jésus-Christ devient notre sauveur, notre vie prend un réel sens. Il y a le besoin d'être aimé, malgré ce que nous sommes. Parce qu'on apprend à se connaître. Et on sait que finalement, au fond de nous, on n'est pas vraiment aimable. On est corrompu, on est sournois, on est hypocrite, on est des pécheurs. Et on a envie d'être aimé, et en même temps, on sait qu'on n'est pas aimable. Et ce besoin-là, Dieu est capable de le satisfaire. Parce que la Bible nous dit que Dieu aime tous les pécheurs et qu'il nous aime même d'une manière qui nous dépasse et qui nous échappe. Les chrétiens authentiques ont rencontré Jésus. Ils peuvent apporter une réponse à ces besoins-là, ces besoins qui sont dans le cœur de l'homme. Et je dis bien, si vous êtes dans le bien-être, vous n'avez pas la réponse à ces questions-là. C'est comme il manque quelque chose au fond. Et je vous souhaite d'avoir Jésus-Christ. Et puis je voudrais dire aussi, votre bien-être sans Dieu, il ne peut pas être éternel. Un jour, il aura une fin. L'Ecclésiaste met en garde le jeune homme en lui disant, tu fais ce que tu veux de ta vie, mais sache qu'un jour, tu seras jugé. Et toute la Bible nous apprend cette réalité, elle nous parle de cette réalité. Dans le livre des Hébreux, de l'Épître aux Hébreux, il nous est dit que il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? Il y a un texte qui nous dit que Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Un jour, on comparaîtra devant Dieu. Alors, j'aurais beau essayer de me défendre, mais Dieu nous jugera d'une manière juste. Son jugement sera incontestable. Son jugement sera irréversible. Et en plus, la Bible nous dit déjà le verdict. Nous serons condamnés si Jésus n'est pas dans notre vie, à cause de notre péché, à cause de ce que nous sommes, ou plutôt de ce que nous avons fait. Nous avons hérité d'une nature pécheresse, c'est vrai. C'est pas ça qui nous envoie loin de Dieu en enfer. Mais c'est que nous avons fait des mauvais choix. On a tous le souvenir dans notre cœur où à un moment donné, on aurait pu faire le bien et le mal, et on a choisi le mal. On a choisi de se venger. On a choisi des choses des fois qu'on regrette, des choses dont on a honte. C'est ça qui nous rend coupables devant Dieu et qui nous éloigne de Dieu. Et Jésus a cité des histoires où il envisage même le cas de personnes qui ont une vie pleine, qui ont été heureuses sur la terre, et qui dans l'éternité, ça change complètement. Pour ceux qui connaissent la Bible, vous connaissez l'histoire du jeune homme riche, ou plutôt du riche et de Lazare, pardon. Le riche, il menait joyeuse et brillante vie. Il pouvait tout se payer tout. Il avait le gros 4x4. Il avait tout ce qu'il faut. 3 maisons, enfin je le brode un peu. Mais il pouvait tout se payer. Il ne manquait de rien. Il a mené joyeuse et brillante vie. Clinquant. Et quand on passe dans l'éternité, le décor change. Et il se retrouve dans une éternité privée de Dieu. Dans un lieu de tourment. Il s'est retrouvé dans un état de perdition. Pourquoi? Parce qu'il était riche? Non. Lui-même le dit, parce qu'il a mené sa vie sans Dieu et parce qu'il a refusé de se repentir à un moment donné. Il a refusé de regarder sa vie et de se remettre en cause, de changer de voie. Et puis il y a une autre histoire aussi que Jésus nous donne. C'est l'histoire de cet homme riche. Il possède beaucoup de terres. Elles ont beaucoup rapporté. Les affaires marchent. Il remplit des greniers, il en construit des plus grands. Tous les hommes envient, oh, si je pouvais être comme lui, si je pouvais, tout le monde l'envie, mais Dieu parle de lui comme un fou, parce qu'il lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Cet homme a réussi ici-bas, mais il a complètement échoué dans l'entrée dans l'éternité. Et il est perdu. Mon bien-être, si Dieu n'y est pas, il aura une fin à un moment donné, si Jésus n'est pas mon sauveur. Et il vaut mieux finalement des fois être pas si heureux que ça sur la terre, si c'était possible, hein, enfin comparable, mais avoir la vie éternelle. Mais la Bible nous dit que les deux sont possibles. Je peux être heureux sur terre et jouir d'un certain bien-être, et en plus avoir l'assurance du pardon de mes péchés, avoir Jésus-Christ comme sauveur. Et en plus, ça fait du bien parce que, vous savez, de savoir que je peux mourir à tout moment, j'irai avec lui. Ça fait du bien. Ça, c'est précieux. Et puis, je dirais ceci, ton bien-être sans Dieu, finalement, il ressemble un peu à du gaspillage. C'est un petit peu dans le ton de cette déclaration de l'Ecclésiaste. Réjouis-toi dans ta jeunesse, mais sache, ça veut dire, fais pas n'importe quoi avec ta jeunesse. Gâche pas ta vie. Ah, il me semble qu'il y a cette pensée de... Des fois, on voit des jeunes qui ont un immense potentiel. Ils commencent à sortir, à mettre la main dans certaines choses. Et... Alors, au départ, c'est un jeu. On commence à fumer des joints, c'est un jeu. On commence à faire ceci, c'est un jeu. Et puis, un jour, il y a quelque chose qui casse. Ça se dirait complètement, on ne maîtrise plus rien. Et des fois, certains, ils ont cassé leur vie. Hein. Et puis, on voit des fois des énormes potentiels, des gens qui ont pu réussir dans les études. Et parce qu'ils ont trop touché à ceci, parce qu'ils ont ouvert la porte à cela, ils ont tout raté. Ton bien-être peut ressembler à du gaspillage. Si finalement ta jeunesse, elle est livrée uniquement pour t'amuser. Certaines personnes veulent profiter de la vie. Des fois, on leur parle de Jésus. Et dit, non, pas maintenant. Moi, je veux profiter de la vie. C'est pas, tu ne vas pas profiter de la vie, c'est le péché qui va profiter de toi. C'est pas pareil. Alors parfois, certaines personnes, même moi, j'ai raisonné comme ça à un moment donné. Je dis, plus tard, mais quelle erreur. Quelle dramatique erreur. Parce que certains n'ont jamais pu revenir. On ne maîtrise pas notre vie. Et en plus, profiter de la vie, c'est pas ça. Quand Christ devient mon sauveur, je peux profiter de la vie. Il y a des fois cette image qu'on peut avoir, c'est que la vie chrétienne, c'est quelque chose de terne, quelque chose de triste, mais c'est faux. La vie chrétienne a quelque chose d'exaltant. Quelque chose d'enthousiasmant. Alors c'est vrai qu'il y a des choses, on va mettre une distance. Mais la vie chrétienne, elle a quelque chose de bon et d'exaltant quand Jésus-Christ est notre Sauveur. Je termine simplement en disant ceci. Dans Ésaïe chapitre 48, verset 18. « Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. » Je l'actualise par rapport au Nouveau Testament. Si tu étais attentif à la voix de Jésus-Christ, si tu étais attentif à ce que Jésus-Christ a fait pour toi, il a donné sa vie sur la croix, il est mort, il est ressuscité pour te sauver. Si tu es attentif à ce message, et tu laisses rentrer Jésus dans ta vie, il t'apportera le bien-être, le vrai bonheur. Il t'apportera du sens à ta vie. Il répondra à certaines questions. Et il est celui qui pourra t'ouvrir un autre chemin. Jésus dira à la Samaritaine, si tu connaissais le don de Dieu, et j'ai envie de dire, j'ajoute, oui, si tu peux connaître le don de Dieu, si tu peux connaître Jésus, ouvre ton cœur cet après-midi. Ne passe pas à côté. Si tout va bien dans votre vie, tant mieux. Mais comprenez que si Jésus n'y est pas, c'est fragile. Ça ne durera pas, inévitablement. Il faut qu'il soit là. Et Jésus, il est celui qui sait nous rendre heureux dans l'éternité, mais déjà ici-bas. Marcher avec lui, c'est vraiment la garantie d'avoir un bonheur. Ça n'empêche pas les difficultés de la vie. Hein. Mais c'est différent quand il est avec nous. Je voudrais vraiment inviter quelques-uns cet après-midi à donner leur cœur à Jésus. Passez pas à côté. Peut-être vous entendez ce message pour la première fois. Ne fermez pas votre cœur. Mais invitez Jésus-Christ à venir dans votre vie. Dites Jésus, pardonne mes péchés. Je voudrais te découvrir. Je perçois pas tout. Je ne comprends pas tout. Mais je veux t'ouvrir mon cœur. On va courber nos têtes et on va le prier maintenant.